Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Il était le maître du roman d'espionnage. Il est mort le 12 décembre dernier. John le Carré est à l'honneur cette semaine dans La Voix est libre. Nous lirons un roman culte, bien sûr, et donc L'espion qui venait du froid, évidemment, aujourd'hui, de John le Carré. Nous visiterons la bibliothèque de la chef Hélène Darroze. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Et d'ailleurs, c'est pas un roman, c'est un magazine cette semaine. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Isabelle Perrin.
Bonjour.
Vous êtes la traductrice de John le Carré en France. Vous avez pris la suite de Mimi Perrin, votre maman. John le Carré est donc traduit en français par la Perrin Mère et Fille Compagnie depuis la Maison Russie, je crois,
c'est
en 1989. Et vous traduisez seule depuis 2011. Comment ça s'est passé? Vous avez pris le relais naturellement. Votre mère vous a enseigné comme ça la traduction le carrésienne?
Alors enseigner, non, mais nous avons travaillé à quatre mains pendant des années, de 86 ou 7 jusqu'à son décès en 2010. Et donc c'était plus de l'ordre du compagnonnage. J'ai appris beaucoup évidemment à ses côtés, mais elle a eu la gentillesse ou la faiblesse de me faire croire que j'apportais également des choses à ses traductions. Et notamment, puisqu'on parle de John le Carré aujourd'hui, elle était beaucoup plus à l'aise pour... tous les passages narratifs, par exemple, et moi beaucoup plus sur les dialogues ou les scènes d'action. Et notre mode de travail, on se partageait le livre moitié-moitié, chacune en faisait une moitié, se relisait, puis chacune relisait l'autre. Et enfin, il y avait l'épreuve de la lecture à haute voix où nous étions ensemble et nous faisions les derniers ajustements.
C'est incroyable ça.
Et à tel point que, je pense, l'une a appris de l'autre et que si maintenant j'ouvre un des romans qu'on a traduits ensemble, je serais bien incapable de vous dire qui avait fait quelle partie, la première ou la deuxième, ou tel chapitre.
Je rigolais à moitié quand je disais Perrin, Mère et Fille, Compagnie, parce qu'il y a un côté comme ça, effectivement, artisan, atelier. Quoi.
Exactement, oui, c'est une forme d'art, d'artisanat, et qui mélange pour nous, et qui mélangeait, et qui pour moi mélange toujours, la littérature, le goût des lettres, mais surtout la musique.
Quelle est la spécificité justement de la langue de John le Carré? C'est peut-être une forme de musique d'ailleurs. Il y a une difficulté en
particulier? Oui, alors c'est une musique, il parle extrêmement bien allemand, il a lu tous les grands auteurs allemands dans le texte, et il parle également très bien français d'ailleurs, et donc il a un style très atypique pour un écrivain britannique, d'une part, et a fortiori pour un écrivain britannique de polar, entre guillemets, enfin en l'occurrence pour lui,
de roman d'espionnage. Parce que c'est matiné de rythme allemand ?
Alors, ce sont des phrases excessivement longues, mais volontairement, bien sûr, et qu'il peaufine jusqu'à trouver le rythme. Il retravaille beaucoup ses textes. Il réécrit, il fait 7, 8, 9 versions, puis il y a plusieurs jeux d'épreuves, beaucoup plus que pour d'autres écrivains, jusqu'à trouver vraiment le mot juste et surtout le rythme juste. Donc c'est un bonheur à traduire, mais le défi est de taille parce qu'il faut arriver dans une langue en français, donc, où a priori les phrases sont plutôt plus longues qu'en anglais, enfin, j'enfonce un peu des portes ouvertes, à rendre cette spécificité, à la renforcer presque pour qu'elle soit saillante en français.
On va revenir à l'œuvre tout à l'heure, mais l'homme lui-même est assez fascinant. D'ailleurs, c'est un peu un roman à lui tout seul. Il publie donc L'espion qui venait du froid en 63, énorme succès. C'était son troisième roman. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque ?
À l'époque, il travaillait dans le corps diplomatique, dirons-nous pudiquement. Et alors, il a toujours minimisé, bon, on le sait maintenant, il a travaillé pour le MI5, puis pour le MI6.
Les services secrets britanniques.
Les services secrets britanniques. Il a toujours minimisé son rôle, parce qu'à partir du moment où cette information a été révélée, il disait « Oh, je n'ai pas fait grand-chose, j'étais un peu un gras de papier, etc. »
Et qu'il était un mauvais espion, il disait.
Voilà, il balaye ça d'un revers de main en disant « Tout le monde m'en parle, mais je n'ai rien fait d'exceptionnel. » Je veux bien croire, je veux bien croire que ça l'ennuyait. Et à l'inverse, je serais tout aussi portée à croire qu'il est en train de nous mentir, comme si souvent, parce qu'il adore réinventer sa vie et que si ça se trouve, c'était un maître espion extraordinaire et qu'il n'en a jamais parlé ni dans ses articles ni dans ses romans.
Mais c'est ça ce qui est fascinant, c'est qu'il ment tout le temps et il l'assume complètement. Et par exemple, le passé d'espion, c'est tardivement qu'il l'a admis parce qu'on lui mettait sous les yeux les preuves de son appartenance au service secret.
Très tardivement sur son passé d'espion.
Parce qu'il s'est passé des choses terribles peut-être ou parce que justement, comme vous dites, il aime inventer et c'est tout.
Je crois que personne ne pourrait répondre à cette question. Même moi, oui. Pour ce qui concerne le mensonge, il a toujours dit que ça lui venait naturellement, qu'il en avait presque peur. Je ne sais pas si nous allons parler du contexte familial dans lequel il a évolué. Il se savait doué pour ça. Et peut-être voulait-il mettre ses capacités au service de la littérature plutôt qu'au service d'un service d'espionnage, justement.
Juste son nom, d'ailleurs, est un masque aussi, puisque Le Carré, c'est un pseudonyme, il s'appelait David Cornwell. Vous nous racontez l'histoire officielle de ce pseudonyme ?
Alors, l'histoire officielle. Au départ, il disait qu'il ne savait pas. Et puis, raconte-t-il, on lui posait tellement souvent la question qu'il l'a raconté, avec moult détails, qu'il était un jour dans un autobus à Impérial et qu'en passant dans une rue commerçante, il a vu le nom d'un marchand de chaussures qui s'appelait John Le Carré. Il a dit « Bon, c'est joli, il y a un côté anglais et français, il y a l'accent, la sonorité me plaît, etc. Donc je prends ça. » Très bien, il a raconté ça à qui voulait bien l'entendre. Et puis quelques années plus tard, il a dit « Oui, parce que tout le monde me fatiguait avec cette histoire. Donc je l'ai inventé.
Voilà. »
Et puis la vérité, c'est que je ne sais pas. Et moi, qui le connais peut-être un petit peu bien, je pense qu'il sait très bien et qu'il ne nous a jamais vraiment dit en fait, quelle était la véritable histoire de son pseudonyme. Et c'est bien mieux ainsi, voilà. Ça fait partie du personnage.
Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que chez Bernard Pivot, dans Apostrophe, il racontait cette histoire. Et dans la même phrase, à la fin, il dit « C'est un mensonge. »
Exactement.
Mais c'est un mensonge. Il termine sa phrase comme ça. C'est incroyable. Il l'assume en même temps qu'il
c'est
raconte.
C'est ça. Il joue avec nous comme il joue avec Exactement. Les éléments avec de sa vie sur lesquels il ne veut pas forcément revenir.
Alors justement, vous l'évoquiez, il a une histoire familiale très dure, abandonnée par sa maman. Son père était une sorte d'escroc flamboyant, un peu fantasque, un peu à la Franck Abagnale, en fait, de Attrape-moi si tu peux.
Exactement.
Le film. Oui. Vous nous les présentez, ses parents très particuliers.
Eh bien, son père, Ronnie Cornwell, était en effet un escroc magnifique, c'est-à-dire capable de monter des arnaques, mais absolument extravagante, de grande ampleur, d'être logé pendant des mois dans, je ne vais pas citer de nom parce que je ne voudrais pas confondre, mais dans un hôtel de luxe, en se faisant passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, et puis il part sans payer. Voilà. Et alors, avec tout le côté presque amusant que ça peut avoir sur certaines anecdotes, mais également un côté douloureux. Il a poussé certaines personnes au suicide en les ayant vraiment arnaqués. Voilà, sans scrupules.
Il a fait de la prison.
Et il est revenu régulièrement hanter Le Carré. Une fois celui-ci connu, il lui a fait des procès.
Ah oui, pourquoi les procès ? C'est parce que son fils ne parlait pas assez de lui,
voilà,
les interviews,
Le Carré
c'est ça ?
ne lui rendait pas assez hommage, ne lui faisait pas assez crédit de toute la part de Ronnie Cornwell qu'il pouvait y avoir dans ses livres.
Mais ça n'a pas abouti, j'imagine.
Je crois que non, je l'espère en tout cas. Mais
il signait aussi des livres.
Oui. Il séduisait des femmes en se faisant passer pour lui. Il signait des autographes. Voilà. Donc avec toujours cette part de et une des choses qui frappait Le Carré, c'était son bagout. Et cette capacité merveilleuse et terrifiante de pouvoir embobiner qui il voulait. Et il a écrit quelque part qu'il a eu très peur quand lui-même s'est rendu compte qu'il avait ce charme-là. La capacité de parler à des gens, de les séduire, Et donc, s'il avait voulu, de les manipuler. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est resté, et évidemment avec le départ de sa mère, qui a abandonné ses deux enfants, qui est resté comme une blessure qui traverse toute son œuvre. En fait.
On va y revenir dans un instant, on retourne dans l'univers de John le Carré tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Isabelle Perrin, traductrice de l'œuvre de John le Carré. John le Carré qui est mort le 12 décembre dernier. Nous replongeons dans son œuvre et dans le personnage aussi de John le Carré, qui est un vrai personnage de roman. On parlait de son père juste avant la pause. Sa mère aussi, ça a été terrible son histoire. Elle l'a abandonné alors qu'il avait, lui et son frère d'ailleurs, alors qu'il avait 5 ans, c'est ça?
Oui, oui, et d'un seul coup. C'est bien ça, d'un seul coup, ayant sans doute souffert énormément d'être exploitée elle aussi par son époux, donc. Et il ne l'a jamais compris, il en a gardé une blessure, il l'a retrouvée bien des années plus tard et finalement ses retrouvailles étaient tristes car il disait lui-même « je ne la connaissais pas, c'était une inconnue ». Enfin adulte. Et c'est là aussi quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de ses romans. Alors pas tout de suite, mais il a fini par écrire, évidemment, comme il écrivait sur les services secrets, c'était un monde à l'époque surtout très masculin.
Il n'y a pas beaucoup de femmes finalement chez John le Carré.
Il y en a assez peu, mais quand il s'attaque, si j'ose dire, à un personnage de femme, il fait des femmes absolument magnifiques. Et on a l'impression qu'il se l'est toujours un peu interdit, mais les rares fois que ce soit Charlie dans La petite fille au tambour, ou Tessa surtout dans La constance du jardinier par exemple, ou Tulip dans une des agentes dans l'avant-dernier, ce sont des personnages à la fois lumineux et particulièrement complexes.
Alors justement, revenons à l'œuvre. On présente souvent John le Carré comme l'anti-James Bond. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Alors, on veut dire par là que, justement, il est arrivé sur la scène littéraire à un moment où Ian Fleming accumulait les succès avec James Bond. Et alors, George Smiley, son héros récurrent, le plus connu, même s'il n'est pas dans tous les romans, est un petit monsieur qui paye pas de mine.
Discret.
Discret. Il écrit dans un article à propos des adaptations cinématographiques, Smiley, il n'est pas sexy. Et de fait, il n'est pas sexy. Donc c'est le petit fonctionnaire, quoi, avec ses lunettes, ses silences aussi. Et en fait, il a réussi à inventer une forme d'espionnage, de héros d'espionnage, dont les talents reposaient dans l'analyse psychologique. Donc il y a quelques scènes d'action dans les romans de Le Carré, qui sont d'ailleurs en général assez époustouflantes. Mais sinon, le rythme est lent, à tout point de vue. L'intrigue est lente, les réflexions et l'analyse de Smiley ou d'autres héros sont lents, et son écriture épouse cette lenteur.
Tout le contraire de James Bond.
Exactement. James Bond, c'est, avec toutes les qualités que ça peut avoir par ailleurs, c'est les sbroufs, c'est les voitures, les scènes d'action, les courses-poursuites, etc.
Mais donc, je l'ai trouvé dur, John le Carré, j'ai vu ou lu une interview où il a des mots très durs pour Bond et Ian Fleming.
Oui, c'est vrai. Là encore, je me demande si c'était pas trop une posture ou une envie de se démarquer, peut-être.
Il aurait pu dire c'est autre chose, moi je fais mon truc, il fait son truc. Mais là, c'était presque méprisant.
Oui, alors s'il y a du mépris, je pense que ça tenait peut-être à ce qui fait l'autre force, à mon avis, des romans de Le Carré. C'est justement de ne pas être... Parce qu'on dit George Smiley est le héros de ses romans, mais il n'a rien d'un héros. Et surtout, il n'est qu'un parmi toute une galerie de petites mains de l'espionnage, et c'est ça qui est absolument fascinant, qui vont passer 3 jours à éplucher des dossiers pour retrouver un indice au fin fond d'une transcription d'interrogatoire. Et qui sont presque des laissés pour compte dans la mesure où c'est des chevilles ouvrières de beaucoup de choses, mais dont le travail en soi n'aboutit pas directement comme James Bond, on a l'impression qu'il sauve le monde à lui tout seul. Or là, il y a un vrai travail d'équipe, mais avec des tâcherons, et je dis ça, ça n'est pas péjoratif, mais oui, vraiment des personnes dont la mission est d'être dans le détail.
Et qui compte. Justement, c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas ce syndrome de Sherlock Holmes, comme avec Conan Doyle, qui était fatigué de son héros récurrent, et tout le monde lui parlait de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Avec Smalley, il n'y a pas eu ce problème-là, si ?
Bah, on lui en parlait beaucoup, et à partir du moment où Smiley n'était plus le héros des romans, beaucoup de gens lui disaient « quand est-ce que vous allez faire revenir Smiley ?» etc. Donc peut-être y a-t-il eu une certaine forme d'agacement, mais il a réussi à trouver d'autres héros formidables. Néanmoins, dans son avant-dernier roman, il fait revenir Smiley. Donc il y a cette forme d'attachement à ce personnage qu'il a lui-même décrit comme étant le mentor qu'il aurait voulu avoir, ou peut-être même le père qu'il aurait voulu avoir. Donc il y était très attaché, même si l'évolution géopolitique de notre monde a fait que, pendant une longue période, Smiley n'était plus le héros qu'il lui fallait dans les nouveaux romans, après la chute du mur.
Alors justement, John le Carré, il reste aussi un peu comme l'écrivain de la guerre froide, au point que certains ont pensé, après la chute du mur, que ça s'arrêterait, John le Carré, faute d'événements. Mais est-ce que... ça n'a pas été du tout le cas, parce qu'il y a toujours de la matière à roman, mais est-ce que ça l'a inquiété, vous savez, ça, quand la guerre froide s'est terminée ?
Je pense que ça l'a presque libéré, en fait.
Ah, d'accord.
Alors, c'est mon analyse, hein, je n'en sais rien. Mais néanmoins, je me souviens d'une interview de lui au moment de la Maison Russie, donc en 89, où il disait j'ai enfin trouvé ma voie, donc en 1989, et il avait tous ses romans de la guerre froide derrière lui, et en fait il sentait bien qu'il allait pouvoir ouvrir sur d'autres choses, que peut-être il s'était lui-même laissé enfermer dans cette image de romancier de la guerre froide, et peut-être une certaine facilité, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche évidemment, mais voilà, c'était son terreau, son matériau principal, et du coup ça lui a permis de s'ouvrir sur toute une autre série de problématiques, que ce soit le terrorisme, le blanchiment, l'entrisme, les magouilles des politiciens, etc., qu'il a abordé à partir de 90 avec la même finesse d'analyse, mais en sortant de ce côté très polarisé Est-Ouest qu'il y avait dans les romans des débuts.
C'est un homme qui était plutôt hors du monde physiquement, qui se réfugiait dans ses cornouailles, mais qui à la fois, dans ses romans, nous faisait entrer, plonger dans le monde, et puis qui ne s'en lavait pas les mains politiquement.
Pas
du tout. Il prenait parti jusqu'au Brexit récemment.
Absolument. Alors c'est très étonnant, ou pas d'ailleurs, ce contraste. Il adorait se réfugier dans sa maison en Cornouailles. Il était assez secret. C'est pas lui qu'on allait voir dans les soirées londoniennes. Voilà. Et en même temps, il avait des antennes dans le monde contemporain. Il examinait tout ça de très près. N'oublions pas qu'il allait sur le terrain pour faire des voyages préparatoires lorsqu'il écrivait ses romans. Il explique que comme un collégien en 77, il avait écrit toute une scène de course-poursuite. Et au moment de l'impression, il se rend compte que, entre-temps, un tunnel avait été construit dans le port de, je crois que c'est Hong Kong, alors que ça n'était pas dans la Seine, il avait été catastrophé. Donc il s'était juré ce jour-là d'aller toujours sur le terrain, ce qu'il a fait en allant au Congo, en Russie, dans les pays d'Amérique latine, etc. Et en effet, donc, il a toujours suivi d'extrêmement près l'actualité du monde qui l'entourait, avec une certaine sévérité à l'encontre des élites gouvernantes, notamment britanniques, et une haine absolue pour le Brexit. Ça, c'est évident. Il s'est beaucoup engagé. Il est allé manifester à l'âge de 87 ans ou 8 ans. Il y a une magnifique photo de lui avec un autocollant anti-Brexit dans une manifestation.
Le 12 décembre dernier, vers 23h, j'étais chez moi, c'était un dimanche, la rédaction m'a appelé parce que John le Carré était mort et qu'il fallait que je vienne pour prendre des informations pour la matinale du lendemain matin. Je vous ai essayer de vous contacter par mail, j'avais évoqué votre mail, et vous proposer aussi une interview éventuellement. Et vous m'avez dit que vous aviez peur un peu d'être submergé par l'émotion à ce moment-là. C'est vrai que vous avez un lien forcément particulier, ça fait partie de votre vie, John Le Carré. C'était quel bonhomme? C'était quel type? Il avait l'air, je sais pas, moi je l'ai jamais croisé, mais j'aurais bien aimé lui serrer la main.
Il était à la fois, je le répète, assez réservé dans un premier temps, mais quand il vous accordait sa confiance, c'était inébranlable. Nous en parlions avec son éditrice depuis des années, Anne Frayère, éditrice au Seuil, en disant qu'est-ce qu'il va nous rester de lui. Il va nous rester le sentiment que quelque part dans le monde, alors en Cornouailles, on savait qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait confiance en nous pour transmettre au mieux ses textes. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et donc, quand on le rencontrait, il avait, alors de façon là encore trompeuse, il avait tout du gentleman anglais. Il était absolument délicieux, très courtois, très galant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui observait avec beaucoup de... un regard très ironique, justement, l'élite, entre guillemets, de la Grande-Bretagne, ou plutôt ce qu'elle était devenue, et les valeurs qu'elle n'avait plus.
Merci Isabelle Perrin, vous restez avec nous dans un instant, nous allons lire justement L'espion qui venait du froid, la première page seulement, à tout de suite.
La Voix est livre, Nicolas Carreau.
Il est l'heure du livre culte et aujourd'hui donc je vous propose L'espion qui venait du froid de John Le Carré, publié en 1963, en 64 en France, on en parlait tout à l'heure, énorme succès, 20 millions d'exemplaires, quelque chose comme ça, l'histoire d'un espion britannique, l'histoire aussi des manipulations de l'URSS et de la Grande-Bretagne, personne ne sort gagnant chez John Le Carré. Écoutez la première page, lue par Philippe Dussault.
Le poste aux frontières. L'Américain tendit à l'Emas une nouvelle tasse de café. « Allez donc vous recoucher, » dit-il. « S'il arrive, nous vous passerons un coup de fil. » L'Emas, qui observait la rue déserte par la fenêtre du poste aux frontières, ne répondit pas. « Vous ne pouvez pas l'attendre indéfiniment, » insista l'autre. « Peut-être viendra-t-il une autre fois. Nous nous arrangerons pour que la police contacte l'agence. De toute façon, vous pouvez revenir ici en moins de 20 minutes. »« Non, » répondit L'Emas. Il fait presque nuit maintenant. Mais enfin, vous ne pouvez pas continuer à attendre comme ça. Il a déjà 9 heures de retard. Si vous voulez vous en aller, libre à vous. Vous avez été très chic, ajouta L'Emas. Je dirais à Kramer que vous avez été bougrement chic. Mais vous comptez attendre encore longtemps? Jusqu'à ce qu'il arrive. L'Emas se dirigea vers la fenêtre de guet et se planta entre les deux policiers immobiles, leurs jumelles braquées sur le poste frontière est-allemand. « Il attend la nuit, » murmura-t-il. « Je connais ça. »« Mais ce matin même, vous disiez qu'il passerait avec les ouvriers. »« Les agents secrets ne sont pas des avions. »« Ils n'ont pas d'horaire fixe. »« Il est brûlé. »« Il se sauve et il a peur. »« Monte est à ses trousses à l'heure qu'il est. »« Il a juste une petite chance de s'en sortir. »« Laissez-lui au moins choisir son heure. » Le jeune Américain hésita. Il avait envie de partir, mais ne trouvait pas d'occasion propice. Un timbre résonna à l'intérieur du poste. Ils attendirent, tous les sens en éveil. Opel record noir immatriculé en Allemagne de l'Ouest, annonça un policier en allemand. Bah, il a dit ça au jugé, murmura l'Américain. Il fait trop sombre pour y voir d'aussi loin. Après réflexion, il ajouta. Comment Moon a-t-il pu savoir? Taisez-vous, lança L'Emas de la fenêtre. Un des policiers quitta le poste et s'avança vers l'abri de sacs de sable érigé tout contre la ligne blanche de démarcation qui coupait la route comme la ligne de fond d'un court de tennis. L'autre attendit que son collègue se soit accroupi derrière le télescope installé dans le blocos, puis il abaissa ses jumelles, décrocha son casque noir du porte-manteau et l'ajusta avec soin sur sa tête.
Europe 1. 14h-15h, La Voix est livre. Nicolas Carreau.
C'était la première page de L'espion qui venait du froid de John le Carré, lu par Philippe Dussault, merci à lui. Isabelle Perrin, vous êtes toujours avec nous, vous êtes la traductrice de John le Carré, alors pas de L'espion qui venait du froid, publié en 63 quand même. C'est un des romans quand même les plus célèbres de John le Carré. Qu'avait-il de différent, de particulier à cette époque-là pour que le public accroche? C'est un mystère, vous allez me dire évidemment, mais est-ce que vous en avez une petite idée?
Alors, moi non, puisque à l'époque je n'étais pas née, donc le choc que j'ai pu avoir à la lecture, il était bien plus tardif. Mais je lisais justement ce matin un hommage que William Boyd lui rend dans The Guardian, William Boyd étant un autre auteur que j'ai la grande chance de traduire. Et justement, il disait que la première fois qu'il avait lu L'espion qui venait du froid, il avait eu l'impression d'être comme un privilégié auquel on donne l'accès à un club. Un club privé, un monde clandestin pour les initiés. Et en même temps, il dit « mais je l'ai trouvé très difficile à lire ». Et au bout d'un moment, dans ce roman-là et dans les suivants, puisque c'est un lecteur assidu de Le Carré, il explique que c'est cette exigence même qu'avait John Le Carré qui fait que lire un de ses romans devient comme une collaboration entre l'auteur et le lecteur. Le lecteur est là pour décrypter tous les indices, toutes les pistes que sème Le Carré, tout en sachant que la tâche ne va pas lui être facilitée par l'auteur. Et je trouve que c'est un très beau compliment. Ça explique aussi que parfois certains lecteurs de romans d'espionnage ou de polar se détournent de Le Carré parce qu'ils le trouvent entre guillemets trop compliqué. Et à l'inverse, ça explique aussi que ces lecteurs assidus le retrouvent à chaque fois avec bonheur parce qu'ils prennent part à la construction de l'histoire, en fait.
Dans la version que j'ai chez Folio de L'espion qui venait du froid, il y a un avant-propos avec cette formule. L'espion qui venait du froid est le premier roman qui donne au lecteur l'impression de se mêler de ce qui ne le regarde pas. C'est pas mal, ça.
Exactement. Oui, oui. Et ce que je disais précédemment sur le travail quotidien et gris des espions que nous présente Le Carré, justement, nous donne l'impression de faire partie de... ou que nous aurions pu en faire partie. C'est à la fois un monde qui, a priori, nous est fermé et dans lequel on peut reconnaître les nôtres et nos travers, nos défauts et nos qualités.
Bon, il est un peu tard, Isabelle Perrin, mais je vous invite à déjeuner. Rendez-vous chez Hélène Darroze pour visiter sa bibliothèque. C'est tout de suite maintenant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio. La chef Hélène Darroze publie un livre au Cherche Midi qui s'appelle « Chez moi, des recettes, mais pas des recettes étoilées, de la blanquette de veau, du magret de canard, des recettes presque fastoches ». C'était l'occasion de la rencontrer, pas dans son restaurant, chez elle, justement, dans sa bibliothèque. Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, pas dans votre restaurant, mais chez vous quoi. Donc il y a votre cuisine à vous qui est juste à côté.
Exactement.
C'est complètement dingue.
Même si dans mon restaurant, j'ai quand même une bibliothèque avec certains livres de cuisine qui me sont très chers.
Ah ben voilà, c'est ce que je voulais vous demander, parce que là, donc, on est dans votre bureau.
En général, ils sont en double, ils sont là et ils sont au restaurant.
Voilà. Et puis un petit bureau avec des livres en dessous aussi, on va y revenir. Ouais, mais ouais. Effectivement, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez des livres dans votre cuisine ici, vous m'avez dit non, ils sont tous dans ce bureau-là.
Oui, à peu près, ouais,
Dans un restaurant aussi.
Dans mon restaurant, oui, dans la salle de restaurant, hein, pas dans la cuisine du restaurant. Enfin, comme tout est ouvert et que la cuisine donne sur la salle, en fait, quand on arrive dans le restaurant, il y a un grand meuble avec que des souvenirs, que des choses marquantes pour moi, dont une étagère pleine de livres, de livres qui ont été importants pour moi, mais que en général on retrouve ici aussi. Hein,
des parce livres que... de gastronomie ou...
Oui, d'accord. Des livres de cuisine, voilà. Le premier livre de Monsieur Ducasse sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il est là-bas aussi, il est ici. Voilà, des choses importantes pour moi.
Vous avez appris la cuisine aussi dans les livres ?
Moi, je trouve que c'est toujours une source d'inspiration et d'apprentissage. Ouais, hein, je lis très rarement les recettes. Hein, par contre, je suis très attentive au visuel et je trouve que c'est important.
Et oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, on a toute une bibliothèque remplie de livres de cuisine. Là, je vois sur les tranches, c'est marqué herbes, champignons, des gros et beaux livres. Hein,
Oui. Alors, il y a à la fois des livres qui apprennent sur les produits, il y a sur les épices, sur les poivres, etc. Et puis après, il y a des livres de cuisiniers, de...
C'est plutôt les ramen et les japonais en haut, j'ai l'impression, non, je me trompe.
Ramen, regarde, il y a aussi
ah
ouais,
de Jean-François
oui, oui.
Piège.
Voilà, oui, de Jean-François Piège. Après, là vous voyez, c'est la bibliothèque, elle est quand même un peu mal fichue, quoi. Hein, donc, ça, là, en haut, il y a des livres qui sont plutôt petits, quoi. Vous voyez, qui sont plutôt, c'est pas des livres hauts ou parce que voilà, il faut.
Oui, les biscornus.
Oui, c'est une bibliothèque, il n'y en a pas beaucoup, je crois. C'est une bibliothèque dessinée et créée par India Madhavi, en fait.
Et par exemple, si je prends les herbes, là, ça m'intrigue, ce truc-là. Donc, je ne sais pas, il doit y avoir peut-être 600 ou 700 pages sur les herbes. Qu'est-ce que ça peut
raconter ? C'était un livre de Régis Marcon, il a fait pareil sur les champignons. Et voilà, on apprend beaucoup sur les herbes. On apprend énormément sur les herbes.
Prime vert officinal, ça se mange, ça ?
Eh bien, écoutez, si c'est dans le livre, c'est que ça se mange.
Vous les utilisez beaucoup ? Gaillet-vray, waouh !
Ouais.
C'est magnifique, hein ?
Ouais, des très belles illustrations. Et puis, chaque fois...
Des pâquerettes.
Ouais, la pâquerette, la feuille de pâquerette se mange, il n'y a pas de problème.
On fait quoi avec ça ? Des salades ?
Ouais, on peut mettre sur des salades, on peut mettre même sur des plats. Hein,
Vous avez une recette de pâquerette comme ça à nous donner ?
Moi, je la mettrais dans une salade d'herbe. Ça donne un petit goût poivré. Je la mettrais, voilà. Mais je peux aussi la mettre comme ça, la laisser tomber sur un plat et... Ça a bien sûr un visuel, la feuille blanche comme ça, mais au-delà de ça, le goût poivré est très intéressant.
Mais c'est des pâquerettes spéciales
ou non, alors pas du tout, c'est les pâquerettes que vous pouvez cueillir dans votre jardin, il n'y a pas de problème.
J'y ai jamais pensé.
Ouais, voilà.
Les champignons, alors si
c'est le même auteur, hein,
magnifique,
c'est Régis Marcon,
aussi ce bouquin.
Et c'est pareil sur les champignons, Régis c'est un spécialiste du champignon et... Et donc voilà, il a beaucoup écrit dessus et voilà.
Vous connaissez par cœur vous les champignons ou vous vous méfiez, vous allez vérifier à chaque fois si vous en cueillez tout ça ?
Je cuisine en général ce que je connais quoi, hein, donc je vais pas me risquer à cuisiner des choses que je ne connais pas en champignons hein, bien sûr. Donc je cuisine en général ce que je connais et sur lesquels je suis sûre de pas me tromper.
Alors, on ne va pas faire tout sur les livres de cuisine parce que c'est un peu attendu chez vous. Juste à côté, il y a une autre bibliothèque remplie de romans, des Pléiades notamment. Alors, il y en a un qui m'intrigue tout de suite, c'est un vieux livre.
C'est de la cuisine.
C'est de la cuisine, m'a raté. Mais qu'est-ce que 25 francs net, j'ose pas le toucher tellement il a l'air fragile,
c'est
vieille édition.
C'est un copain de Biarritz qui m'a offert ça. Il m'a dit tiens, celui-là, il est pour toi. Et. Ouais, il est vraiment, c'est que sur du végétal, vous voyez.
Régime végétalien.
Ouais, et celui-là, c'est, celui-là pareil, c'est lui qui m'a offert aussi, je pense, je ne me souviens plus très bien.
La cuisine de madame, mais c'est voilà. Des livres du début du XXe siècle, ça.
Ah oui, ils sont assez, j'ai aussi de vieux livres, ça c'est le manuel du cuisinier landais, donc là,
bien sûr,
il me parle énormément. Plein de recettes sur la cuisine landaise, donc mon terroir d'origine, donc celui-là, ça, il est là depuis, je crois, doit l'avoir en neuf aussi quelque part qui traîne, mais ça c'est vraiment une édition originale.
Et alors derrière, bon bah du coup maintenant j'y vais, je les prends à pleine main, parce que derrière il y a des vieux livres aussi,
des éditions. Vieux Larousse.
Bon bah c'est encore de la cuisine.
Ah oui, c'est tout ça c'est de la cuisine encore, tout ça là. Ouais.
C'est la chasse.
Sur la chasse, magnifique.
Vous avez publié, récemment vous en publiez un chez moi, mais vous en avez publié beaucoup des livres. C'est quoi votre rapport avec les livres ?
Moi, j'adore écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire. Et j'ai pas assez de temps pour ça. Et des fois, il me tarde d'être plus vieille pour pouvoir plus écrire. Et je trouve vraiment, une espèce de sérénité, de liberté dans l'écriture que j'aime beaucoup.
Et du roman, vous allez en écrire un jour ?
Oh, non. Enfin, le premier livre que j'avais écrit, c'était un peu un espèce de roman illustré par des recettes, roman un peu autobiographique. Mais, et là, je suis en train d'en écrire un depuis quelques années, mais il me faut du temps. C'est pareil, c'est l'histoire d'une balade dans des jardins.
Et les questions toujours de cuisine ?
Ah oui, toujours de produits. Ouais, après moi je suis pas assez, je pense pas être assez douée pour écrire un roman quoi. Ça, je m'en sens pas du tout capable.
Mais c'est une passion que vous partagez avec votre confrère Thierry Marx, qui écrit lui aussi des romans.
Oui, c'est vrai. Ben, il est là. J'en ai un là. Voilà. Mais je l'ai pas encore lu. Il est là. Il attend qu'on me l'a offert.
Ouais, c'est lequel?
Et la stratégie de la libellule. Uh-huh. Voilà. Mais je l'ai pas encore lu. Il est dans les livres à lire.
Tiens, ben justement, il y a une belle photo là de ouais. vous avec vos collègues de Top Chef.
Exactement. C'était la photo pour les 10 ans de Top Chef. Les 10 ans de Top Chef, et voilà, on est tous sur la photo.
Et alors, donc, il y a les Pléiades, alors là, mm-hmm. du pur roman. Et oh, notamment...
ben, en général, quand on veut me faire plaisir, on m'offre un livre de la Pléiade.
Et c'est lequel votre préféré, celui que vous emmenez, s'il y a le feu ?
Oh, je ne sais pas. Alors là, vous me posez...
Il y a Romain Gary, il y a Stéphane Zweig, il y a Oscar Wilde, il y a la Bible, ouais.
Ouais, il y a Albert Cohen aussi. Pff, sincèrement, je ne sais pas si j'ai un préféré, hein, je serais...
Non, mais il faut choisir, là, Hélène Darroze. Là, il y a le feu, là. Vous ne pouvez en prendre qu'un seul.
Je ne vais en prendre qu'un seul. Oh, ben, je prends la Bible. Ah non, je prends Prévert. Prévert. Non, j'adore Prévert.
Pourquoi moi, Prévert
Parce que j'adore Prévert. Depuis toute petite, j'adore Prévert. C'est un poète que j'aime énormément, donc je prends Prévert, pas de problème.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Prévert, comme ça ?
Maman me lisait ça quand j'étais toute petite, donc c'est peut-être une espèce de Madeleine de Proust. Et c'était illustré par... C'était Follon qui les avait illustrés. Toute la collection que maman avait des livres de Prévert, c'était illustré par Follon. Elle les a toujours, je suis sûre. Elle a une bibliothèque, elle a une grande maison, quoi, chose que moi, je n'ai pas.
Est-ce qu'on peut faire un lien, une passerelle entre un grand chef et un grand écrivain ? Est-ce que vous en voyez un qui est immédiat pour vous, auquel vous pensez parfois quand vous lisez ? Vous dites, tiens, ça
non,
ressemble à ce que je fais, dans la démarche.
Non, pas vraiment. Je pense que une recette comme un livre, ça se construit, ça se réfléchit, ça parle de soi. Je pense que dans chaque livre, quand même, l'auteur parle un peu de lui. Donc voilà. Maintenant, voilà, autant je pense que l'écrivain est un vrai artiste. Bon, après, c'est pareil. L'écrivain est un vrai artiste, alors que j'ai toujours dit, moi, que le cuisinier était un artisan. Mais bon, voilà.
Ah, vous pensez que le cuisinier n'atteint
pas
l'art ?
Oui, alors après, il y a certains cuisiniers qui sont des artistes, ça je le reconnais. Mais voilà, mais bon, c'est une longue conversation.
Et vous avez des livres contemporains aussi, des romans contemporains. Est-ce que vous avez des écrivains habitués de votre restaurant que vous lisez aussi comme ça par rencontre ?
Habitués de mon restaurant, Yasmina Reza vient assez souvent, même si elle écrit plus peut-être des pièces de théâtre que des romans, mais...
Je vois Albert Cohen aussi, là, le livre de ma mère, comme vous nous en parliez mm-hmm. tout à l'heure.
Ouais, bah, mère, ça, c'est un très, très beau livre. Hein. C'est un livre que je relis souvent et je peux juste relire quelques passages.
Qui est une déclaration d'amour
d'autres.
À sa mère,
oui,
en fait.
Oui, tout à fait. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre-là ?
C'est à la fois voilà, la déclaration d'amour à sa maman, c'est cette mais c'est aussi un peu parfois d'exaspération quoi, hein, devant une maman un peu trop présente et qui se mêle un peu trop de ce qui ne la regarde pas. C'est un peu comme toutes les mamans, quoi, hein, c'est vraiment la relation mère-fils ou mère-fille d'ailleurs, voilà, que chacun connaît. Quoi, hein, mais il y a tellement d'amour d'un côté comme de l'autre, quoi, c'est merveilleux.
Et les livres qui sont sous votre bureau, là, c'est quoi ?
Mais c'est ça, c'est des livres à lire ou déjà lus. En général, quand je les ai lus, je les prête, je les échange avec des gens qui aiment lire, ma maman, mon frère, mes amis.
Il est amusant, ce bureau, il a une drôle de forme.
Oui, il a une drôle de forme. C'est un bureau que j'ai acheté à Londres, chez un antiquaire à Londres, et que j'ai ramené ici à Paris.
Il est en forme de botte, un peu.
Ouais, je pense que c'était. Ouais, je sais pas si c'était un but aussi. Ça a l'air d'être parce que.
C'est là-dessus que vous écrivez ?
Alors oui, c'est là-dessus que je travaille. Là, en ce moment, ma fille me le pique beaucoup, mais en général, c'est là-dessus que je travaille. Ouais.
Et vous avez un ordinateur pour écrire ou vous écrivez à la main ?
Non, j'ai un ordinateur. J'écris sur. Enfin, je prends beaucoup de notes à la main. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes à la main.
Ah ouais, potiron,
machin. C'est un livre sur les légumes, c'est ce fameux livre dans les balades des jardins
vous écrivez à l'ordinateur, mais après, en fait, vous remplissez quasiment autant en manuscrit.
C'est spécial parce que c'est un livre sur les légumes, donc je fais aussi pas mal de recherches sur les légumes, etc. Et je vais dans les jardins. En fait, dans ce livre, je raconte trois jardins qui ont été très, très importants pour moi. J'amène mes petites filles en balade et on s'arrête devant chaque... fruits ou légumes. Et par exemple, il y avait le jardin de mon arrière-grand-père. Mais c'est vrai que j'étais petite. Hein. Alors, j'ai des souvenirs. Je me souviens très bien du lieu. Je me souviens. Mais par exemple, mes grand-tantes ont plus de souvenirs. Donc, elles m'ont raconté plein de choses. Donc, j'ai toutes les notes de ce qu'elles m'ont raconté pour qu'à un moment donné, ça ressorte. Quoi, hein, voilà.
Il y a beaucoup de livres en anglais aussi, puisque vous avez travaillé à Londres.
Oui, pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, j'ai mon restaurant à Londres. Et que, mais c'est surtout aussi parce que. Parce que, par exemple, celui-là que j'aime beaucoup, qui est une de mes grandes amies qui l'a écrit, Dominique Crène, qui est française, hein, mais qui a son restaurant 3 étoiles à San Francisco, elle l'a écrit en anglais. Il est en anglais, donc il est dans sa version originale.
C'est la même structure, la recette en anglais qu'en français ? Ou il y a une particularité qu'on...
Alors des fois, il faut traduire, si on veut s'en servir vraiment, il faut traduire les livres en kilos ou comme ça, quoi. Mais voilà. Mais sinon, oui. Mais c'est très enrichissant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Hein. Donc ça c'est de Dominique aux États-Unis. Ça, c'est Massimo Bottura en Italie. Anna Ross, elle est en Slovénie. Mmh. Donc il y a vraiment beaucoup de...
Le Mexique aussi.
Ouais, le Mexique.
Le Japon.
Le Mexique.
C'est un vrai voyage.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est comme une littérature étrange, la littérature
exactement.
Étrangère.
Exactement. Moi, aujourd'hui, je trouve... je trouve plus de connaissances dans ce genre de livre à l'étranger plutôt qu'en France. Parce que c'est vrai qu'en France, la cuisine française, même si il y a des choses très inspirantes, hein, mais c'est vrai que je la maîtrise plus, on va dire, c'est plus dans ma culture. Tandis que là par exemple, on est en train de travailler sur une recette de mollet pour nos burgers là, qu'on fait en ce moment à emporter.
Comment on dit œuf mollet en anglais ?
Alors c'est pas un œuf mollet, attention. Hein, quand je parle d'un mollet, c'est un condiment à base d'épices, de fruits ou de chocolat ou comme ça du Mexique.
D'accord.
Voilà, c'est pas l'œuf mollet du tout, non.
Et comment on dit mollet du coup ? C'est un terme espagnol.
Mollet, oui, voilà, ça s'écrit, on le laisse comme ça, on le traduit pas en français. Ça, c'est quelque chose qui.
Mais la cuisine, c'est une
si
langue étrangère en fait, de toute
ketchup,
façon. La cuisine, c'est une langue étrangère. C'est une langue qu'il faut apprendre. Il y a des termes comme étuvé, des choses comme ça. On en avait parlé quand j'avais visité la bibliothèque d'Yves Cambord. Ouais. Il y a plein de mots comme ça qu'on n'utilise pas dans la vie courante, qui sont des mots propres à la cuisine.
Oui, c'est vrai. Alors moi je la trouve pas étrangère.
Une salade, des trucs comme ça.
Ouais. Moi, je trouve pas
ça. Vous parlez couramment, c'est forcément.
Mais... Voilà. Okay. Je sais pas si. Oui, j'espère parler couramment le langage de la cuisine, mais. Mais j'espère aussi le parler très instinctivement. Le vocabulaire ou les recettes écrites, etc., c'est quand même pas non plus mon quotidien. Quoi. Je veux dire, moi, il y a beaucoup d'instinct, beaucoup de quand on est cuisinier, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de on va à la recherche de sa sensibilité, de ses émotions. Et
l'artiste.
La limite entre l'artisanat et l'art, etc.
Puis la cuisine, ça se parle en silence, en posant une assiette devant quelqu'un.
Exactement, ça parle de soi. Ouais.
Merci beaucoup, Hélène Darroze.
Merci à vous.
À bientôt, merci.
Au revoir.
De retour en studio, merci à Fabien Duchesne pour la prise de son. Et je rappelle le titre du nouveau livre de recettes d'Hélène Darroze, « Chez moi, au Cherche-Midi ». Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons à Vaucresson, rejoindre Anne Burzinski. Bonjour Anne Burzinski.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Vous avez 3 livres dont vous vouliez nous parler. C'est ceux que vous tendez aux clients régulièrement. Ce n'est pas des livres qui viennent de paraître, mais justement, on aime bien aussi. Dites-nous.
Alors, pour le coup, là, il y en a quand même un qui est tout récent. Et les deux autres, je suis allée chercher encore dans mes petites merveilles à dénicher des étagères. C'est toujours un plaisir, effectivement. Alors, celui qui est récent, c'est Une farouche liberté sur Gisèle Halimi. En fait, ce sont des entretiens qu'elle avait fait avec la journaliste Annick Cogent. Et je me suis régalée parce que non seulement c'est pas du journalisme froid ou sec, c'est très vivant. On sent vraiment, c'est une conversation à laquelle on est convié. Deux femmes qui sont passionnantes. Donc Annick Cogent pose des questions à Gisèle Halimi qui réagit et rebondit dessus et qui nous raconte vraiment sa vie, son enfance, comment elle a été élevée, mais aussi évidemment ses combats en tant qu'avocate et son passage en politique aussi, qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Et voilà, j'ai été complètement fascinée, mais surtout je trouve que c'est un plaisir à lire. On le lit presque comme un roman. Et voilà, une vraie belle découverte.
Justement, vous savez, c'est le roman, il me faut du roman là, donnez-moi du roman,
ouais,
Anne.
Du roman, on veut du roman, on en veut plus. Alors justement, alors pour le coup, le deuxième, c'est pas du roman, mais promis, après on y retourne, parce que là, on est encore sur l'autobiographie, avec La couleur de l'eau, en fait, de James McBride. Là, pour le coup, on est plutôt dans l'autobio, puisqu'on est sur le récit alterné de son enfance à lui et de l'enfance de sa maman, qui est une femme assez fascinante parce qu'elle a eu une vie quand même assez peu conventionnelle avec plusieurs vies en une. Elle est issue d'une famille juive polonaise, mais elle a été reniée par sa famille quand elle a épousé un homme noir. Et mais quand je dis reniée, c'est qu'ils ont fait une cérémonie du deuil pour vraiment faire comme si elle était morte. Elle a changé de nom, enfin, c'est assez incroyable. Et elle s'est retrouvée à élever 12 enfants noirs en étant elle-même blanche dans une Amérique qui n'était pas super ouverte. Donc vraiment un récit de vie qui en soi pourrait faire un film, enfin qui est déjà assez incroyable, mais qui est parfaitement vrai et qui est raconté avec une écriture. Mais là pour le coup, on parle de La couleur de l'eau. Alors le titre est très beau, vous découvrirez pourquoi. Mais en plus, l'eau, c'est vraiment, enfin c'est exactement l'écriture de l'auteur parce que chaque phrase se coule l'une dans l'autre. C'est d'une fluidité incroyable. On a l'impression qu'écrire c'est facile avec lui, quoi. Enfin, et du coup, c'est évidemment très facile et très plaisant à lire.
Et c'est chez Gallmeister qu'on adore. Et il y a le petit bandeau sur la version poche. 2,5 millions d'exemplaires vendus, ouais, dans le monde.
Incroyable. En fait, il est paru en 1997 au départ. Moi, je l'avais loupé à ce moment-là, mais du coup, ça s'est étalé dans le temps aussi. C'est quasiment un classique, entre guillemets, depuis une vingtaine d'années, quoi, en fait.
James McBride, La couleur de l'eau. Et alors, le suivant, je le vois là, déjà, et je suis content. J'aime beaucoup cet auteur.
Moi aussi, c'est un de mes incontournables. Alors déjà, de manière générale en littérature, mais d'autant plus en polar. C'est vrai qu'on parle beaucoup des auteurs nordiques, notamment pour ce côté roman policier d'atmosphère. Mais lui, il est vraiment dans la veine d'atmosphère, puisque vous êtes en Pologne, en l'occurrence contemporaine, avec un procureur qui enquête, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est très taciturne, il a un côté très, très humour noir, enfin, c'est un peu le pince sans rire qui va nous dire c'est une journée normale en Pologne, il fait un temps de merde, il y a de la boue, quoi. Enfin, c'est un peu ça son quotidien, mais il est d'autant plus attachant, je trouve, qu'il a ce côté un peu bougon. Et on prend le temps de vous installer le décor, et une fois que l'enquête est lancée, par contre, ça pulse. On ne le lâche pas, c'est vraiment addictif, mais tout en étant une enquête un peu plurielle et vraiment sociale, en fait.
On n'a même pas donné le titre et le nom de l'auteur.
Eh ben alors, donc c'est La rage de Zygmunt Milošević.
Et c'est en version poche.
Voilà, en version poche, effectivement, chez Pocket.
Merci beaucoup, Anne. On récapitule. Donc, La rage de Zygmunt Milošević, James McBride, La couleur de l'eau, et puis Gisèle Halimi avec Annick Cogent, Une farouche liberté chez Grasset. Merci beaucoup, Anne.
Avec un grand plaisir, Nicolas. À bientôt.
Un retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 La Voix et Livre, dernier chapitre, toujours avec Isabelle Perrin, traductrice notamment de John Le Carré. Et bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Comme chaque semaine, on vous retrouve pour votre conseil littérature jeunesse. Mais cette semaine, ce n'est pas un livre. C'est un magazine et son titre, Oui Demain, 100% ado.
Oui, c'est le petit frère de Oui Demain. Cette fois, c'est la version ado pour les 10-18 ans, avec une très belle promesse éditoriale. Déchiffrer le monde en mutation, faire découvrir des solutions, notamment écologiques, partout dans le monde, et aider à passer à l'action à son échelle. La direction éditoriale du magazine est partie d'un constat, celui d'une aspiration vraiment très forte de la jeunesse, trouver des solutions concrètes. Et Oui Demain, 100% ado tente d'y répondre justement à travers ces pages.
Et alors, on en trouve des solutions ?
Oui, vraiment beaucoup. Dès les premières pages, Oui Demain, 100% ado propose par exemple une application pour smartphone créée par un ado justement de 17 ans. pour calculer son empreinte carbone, ça s'appelle Treebox. Autre idée concrète, comment créer son déodorant soi-même, faire des yaourts 0% industriels, mais aussi plein de questions-réponses sur la 5G, les néonicotinoïdes. Et puis, dans un grand dossier central, on découvre 50 héros pour la planète. Ça va de Jamie Margolin, une américaine de 17 ans qui a créé un mouvement mondial pour le changement climatique. Elle a quand même traîné l'État de Washington en justice pour inaction climatique, excusez du peu. Ça passe aussi par Madison Stewart, une activiste de 26 ans qui nage avec les requins et qui a quand même réussi à trouver une solution alternative pour les pêcheurs indonésiens qui vivaient de la pêche au squale et qui maintenant emmènent les touristes admirer la faune marine et plein d'autres personnages qui se bougent pour la planète avec à chaque fois un petit encadré bien malin pour les aider et pour agir à leur côté.
Et ça sort quand et tous les combien, je veux dire ?
Alors, le dernier numéro est sorti la semaine dernière. Il vient d'être tiré à 50 000 exemplaires. Et en parallèle, Oui Demain 100% Ado lance une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour accélérer la cadence. L'objectif final, c'est de sortir un numéro tous les 3 mois.
Oui Demain 100% Ado, en partenariat avec Phosphore et Okapi,
tout à
m'avez-vous
fait.
Dit Isabelle Perrin, vous traduisez aussi de la littérature jeunesse, m'avez-vous dit ?
Oui, depuis une dizaine d'années, avec un grand bonheur, à la fois parce que ça repose un petit peu entre deux gros pavés de littérature un peu difficiles, mais surtout parce qu'on est obligé de déployer d'autres stratégies.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un autre langage encore, ça ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que je reste extrêmement attachée à tout ce qui tient à la musicalité. Ça me paraît d'autant plus important pour des jeunes lecteurs. Et alors, évidemment, on ne va pas mettre des mots atrocement compliqués, mais en même temps, là aussi, j'y tiens beaucoup, et les auteurs que je traduis également, il ne s'agit pas de prendre les petits lecteurs pour des imbéciles.
Donc vous ne vous interdisez pas non plus des termes parfois un peu compliqués ?
Pas du tout. Voilà. Quitte à ce qu'ils ne soient pas... Alors, il ne faut pas en enchaîner 25 dans une phrase, mais si un terme au milieu est un petit peu mystérieux et exotique, à la limite, tant mieux. Et ça peut... susciter des envies de lecture complémentaires, des recherches, et au contraire. Donc c'est très plaisant d'avoir à trouver ce juste équilibre entre les deux.
Et on peut lire aussi toutes vos traductions de John le Carré, je rappelle. Merci beaucoup Isabelle Perrin d'être venue nous parler de John le Carré aujourd'hui.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. La semaine prochaine, c'est Sériland, le podcast d'Eva Rock qui sera diffusé à l'heure de cette émission. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.